Carnet de région.
Gare,
Aude,
Lozère,
Hérault,
Pyrénées-Orientales.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Carnet de région, le magazine d'information des radios associatives et non commerciales de Languedoc-Roussillon. Pour ce 37e numéro de l'année 2015, il sera question en première partie en écho à la COP21 d'initiative environnementale. Dans le nord de l'Hérault, les collectifs opposés à l'éolien industriel ont manifesté avant d'être malmenés par les forces de l'ordre pour cause d'état d'urgence. Un régime qui a contraint dans le Gard l'association Saint-Hilaire Durable à adapter son rassemblement pour dénoncer un projet de golf. À Montpellier, les enfants de l'école maternelle Teresa ont participé à une action de sensibilisation par la plantation d'arbres. Également auprès des enfants, le Réel 48 a proposé une série d'animations sur l'ensemble du département de la Lozère à l'occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets. Puis, on retournera dans le Gard où le département proposera la journée Climatitude le 8 décembre prochain. Dans la deuxième partie de ce carnet de région, le doctorant en sciences politiques Julien Salingue était de passage pour une conférence dans le cadre de l'automne palestinien en Cévennes. À cette occasion, il s'est exprimé sur l'interdiction du mouvement BDS en France. Enfin, Emmanuel Negrier, politologue et chercheur au CNRS-CEPEL, nous expliquera le mode de scrutin des régionales. Depuis quelques années, le collectif pour la protection des paysages et de la biodiversité 34 s'oppose au projet d'implantation de parcs éoliens industriels sur l'Escandorgue dans l'Hérault, dont certains sortent déjà de terre. En fin de semaine dernière, une soixantaine de manifestants des collectifs de l'Hérault, mais aussi de l'Aveyron et du Tarn, se sont réunis au-dessus de Joncelles, près de la gare de Selles, à proximité d'un parc en construction avant d'être délogé par les forces de l'ordre. Pour le collectif 34, Olivier Laplace et Jean-Baptiste Liboudan au micro d'Alain Mendes de Radio Lodev.
C'est une lutte qu'on mène depuis longtemps, c'est une lutte qu'on mène depuis plus de 10 ans. Comme vous le dites, ça fait longtemps qu'on a fait toutes les procédures un peu administratives et tribunaux. Et là, maintenant, les éoliennes arrivent. Donc, on les a vues se construire depuis quelques mois doucement au niveau des terrains, avec des fondations, etc. Et ces temps-ci, c'est les premiers qu'on voit qui arrivaient. Et jeudi, quand on s'est retrouvés avec les membres du collectif 34, c'est-à-dire plusieurs associations qui reprennent un petit peu les luttes anti, on va dire, opposant éolien industriel. C'est l'éolien industriel dont on parle. Et d'autres collègues de l'Aveyron et du Tarn, qui aussi sont impactés par tous ces futurs projets. On a été bordé de chance, on pourrait dire, parce qu'on a eu une livraison de deux parties de l'éolienne, des mâts et puis une nacelle, la partie un peu électronique, on va dire. Et comme on était là et qu'on stationnait, ils n'ont pas pu vraiment passer, donc ça nous a permis de voir un petit peu ces machines. Et puis c'est vrai que nous, on a la tentation, c'était d'essuyer plutôt de demander, quand les gendarmes sont arrivés, nous ont demandé ce qui se passait, c'était de leur demander qu'ils les renvoient chez eux parce qu'elles viennent d'Espagne. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça, bon enfant. On a passé la journée, on a pique-niqué ensemble. Et sur le coup de la fin d'après-midi, là, c'est débarqué un groupement plus musclé, vous savez, ceux qui sont habillés un peu comme dans les films, là on les voit, ils rigolent plus trop. Il y avait des gens avec des flashballs, pistolets mitrailleurs, ils nous ont dit que c'était l'état d'urgence, il y avait des tasers, tout ça. Enfin, nous, on était très pacifiques. Ils nous ont un peu molestés pour sortir, on va dire. Trois de nos collègues ont quand même terminé la journée au Kellar, à la gendarmerie, et relâchés après dans la soirée.
Et on parle là de quel parc éolien qui se construit ? C'est vers Joncelles, Olivier ?
C'est celui qui s'appelle Combcode et Mas de Naye. Donc Combcode, c'est celle qu'on peut voir maintenant pour les auditeurs qui se promènent un peu sur l'Escandorgue. C'est les premières qu'on peut voir qui apparaissent dans le paysage. Il y en a 7 là en ce moment. Et Mas de Naye, c'est juste à côté. C'est la colline d'à côté. Il y en aura entre 7 et 10 qui devraient arriver parce qu'ils sont peut-être en train de modifier le permis, mais elles sont déjà aujourd'hui au pied de... C'est-à-dire que les convois ont fini d'arriver. C'est en fait un jeu de Lego qu'ils sont en train de faire pour les construire.
C'est des machines qui font plus de 60 mètres de haut avec des pales de 30 mètres de long. Ce qui nous inquiète le plus, c'est que maintenant commence à apparaître ce maillage qu'il y aura presque une centaine d'éoliennes dans un rayon de 5 km. Mais ça, ce n'est que le début de quelque chose de beaucoup plus grave. Et c'est pour ça que les gens de l'Aveyron sont venus, ceux de Sainte-Afrique et de la Massada, de transformateurs, parce que dans un rayon de 50 km autour de Sainte-Afrique, c'est 1000 éoliennes qu'il va y avoir, et donc aussi bien dans le sud Aveyron que nous dans l'Hérault que dans le Tarn. Là, vous vous rendez compte que l'émotion que ça produit chez les gens, c'est que là on se sent vraiment envahi. Il faut voir que dans les villages de l'Aveyron, et ailleurs pas seulement, ça a divisé les villages. Parce qu'entre ceux qui ont loué leurs terres pour que les autres implantent et qui touchent régulièrement de l'argent, et tous les autres à côté qui souffrent, soit des nuisances visuelles, sonores, ou d'infrasons et qui ont des problèmes de santé ou des choses comme ça, ça a fait une division énorme dans les villes. Et ça, on voudrait que les Français l'entendent, qu'il y a un abus d'image de l'éolien qui est une énergie propre et renouvelable. C'est envoyé sur des lignes à ce transformateur, par exemple, en 400 000 volts, qui va rayonner dans toute l'Europe, etc. C'est un projet complètement faramineux. Mais c'est surtout que le vent ne souffle pas tout le temps. Il faut, dès que, si on ne veut pas que ça saute dans le réseau, mettre tout de suite en route une énergie thermique à flamme. Et c'est surtout beaucoup d'énergie d'usines à gaz qui ont été remises en route ou qui ont été installées à nouveau. Ce n'est pas une énergie stockable. Un, elle est intermittente. Deux, elle n'est pas stockable. Elle ne peut pas être une alternative au nucléaire pour l'instant. Ce serait très bien, ça, c'était déjà au moins ça. Mais au moins, on souffrirait pour quelque chose qui serait positif. Ce n'est pas le cas. C'est renouvelable. Mais pour renouveler les bénéfices faits par les actionnaires des grosses sociétés qui montent ces éoliennes.
L'association Saint-Hilaire Durable voulait faire de la journée du 29 novembre, date de l'ouverture de la COP21 à Paris, un symbole de l'abandon d'un projet de golf défendu depuis plus de 10 ans par l'agglomération d'Alès. Comme les autres rassemblements en France, la manifestation à pied et à vélo du centre-ville d'Alès à la ZAD golfique de Saint-Hilaire de Brettemas était interdite par la préfecture pour cause d'état d'urgence. Situation qui a forcé les organisateurs à s'adapter. Une partie des manifestants ont quand même fait le trajet à pied ou à vélo, mais en ordre dispersé. Le rassemblement avait lieu sur un terrain privé pour ne pas être inquiété par la police. Dans ce contexte particulier, Rémi Coulet de l'association Saint-Hilaire Durable se félicite de la réussite de la mobilisation auprès de Pierre Isnard-Dupuis de Radio Escapade.
On est satisfait, disons que c'est une satisfaction mitigée, parce que la grande satisfaction aurait été de réunir des centaines de personnes qui auraient marché pour le climat depuis Alès Saint-Hilaire. Hein. Et la décision préfectorale nous a vraiment coupé l'herbe sous les pieds et a partiellement saboté la manifestation. Bon, on est quand même satisfait au vu de la participation qui a eu lieu sur le terrain, hein, puisque le terrain était plein, donc voilà, il n'en aurait pas fallu beaucoup de plus pour qu'on déborde. Donc globalement, on est satisfait de cette participation. On est satisfait des échanges et de l'intérêt qu'ont manifesté les participants autour des tables rondes qui se sont tenues.
Par rapport à la décision de la préfecture, est-ce que vous vous êtes posé la question à un moment donné de quand même maintenir une manifestation telle que vous l'avez entendue au départ? Voilà, est-ce que ça a suscité quand même des débats pour savoir comment continuer la mobilisation?
Alors, on s'est réunis en urgence parce qu'effectivement, la décision de préfectorale nous a vraiment pris de court, dans la mesure où la veille, j'avais rencontré la police nationale à Alès, qui nous avait dit que notre parcours serait cadré avec deux véhicules, etc. Et puis, le mercredi matin, coup de fil en catastrophe, où on apprend la décision préfectorale. On a eu très peu de temps pour réagir face à la proximité de l'événement, puisque donc, on a appris ça mercredi, et il fallait prendre une décision dans les heures qui suivaient. Donc on s'est réunis en urgence le jeudi et on a envisagé rapidement la possibilité de faire une chaîne humaine ou de faire des petits groupes de marcheurs autour de la place de la mairie d'Alès. Finalement, on a laissé chacun libre de décider. D'autant plus que certaines personnes n'étaient pas informées de l'annulation de la marche. Mais en tant qu'organisateur, nous pouvions maintenir l'appel à la marche, l'appel à la manifestation, puisque nous aurions été les premiers inquiétés. Hein, et étant donné la façon dont ça se passe, l'état d'urgence actuellement et les dérives qui suivent, on n'avait pas particulièrement envie d'être en première ligne et exposé à la vindicte. On a décidé en urgence de maintenir pour ceux qui se rendraient à la mairie la marche effilochée, on va dire, hein, puisqu'il ne s'agissait pas de faire une manifestation sur la voie publique. Donc la marche a bien eu lieu, il y a quand même eu une bonne cinquantaine de personnes qui ont pu y participer et qui sont venues grossir nos rangs sur le terrain. Donc bon, globalement c'était une solution qui n'était pas idéale, mais qui a quand même permis à certains de marcher.
La COP21, c'est aussi pour les tout-petits. Au bord de la Lironde, près du complexe Agropolis à Montpellier, les enfants de l'école maternelle Teresa ont mis les mains dans la terre pour l'opération « Plus d'arbres, plus de vie » qui est reconduite depuis 4 ans et labellisée cette année COP21. Un reportage de Lauriane Avar, RCF Hérault.
un peu plus creuse.
Pelle à la main, il creuse vigoureusement avec son petit-fils. Jean-Luc ne voulait pas manquer ça. Pour lui, il faut encourager cette relation à la nature.
Plus on va les impliquer dans tout ce qu'est la nature, oui, c'est important de voir la vie, parce qu'il n'y a pas que nous qui vivons sur cette planète. Les oiseaux, les écureuils, il faudra bien que tout le monde y trouve son compte.
Jean-Marc, lui, a trouvé le sien.
Tu ramènes toute la terre
et après, il faudra l'arroser.
Tout de vert vêtu, Jean-Marc est le responsable espace vert autour d'Agropolis. Transmettre, expliquer, c'est son truc.
C'est une bonne approche d'initier des enfants comme ça. Ça nous apporte un peu plus et puis ça les apporte à eux. C'est pour ça qu'il faut faire davantage de journées comme ça. C'est important.
Botte aux pieds, les enfants s'affairent. Des jeunes pousses qui déjà comprennent tout. Le cœur de la pédagogie, selon Annie, cette enseignante épanouie.
Il ne faut surtout pas sous-estimer les enfants. On s'aime avec les enfants. Ils prennent ce qu'ils veulent, mais ils savent que ça existe. Quelque chose auquel ils peuvent revenir ensuite. Et c'est ça qui est important.
Au total, 163 arbres plantés aujourd'hui pour la santé de la planète demain.
La semaine dernière, c'était la semaine européenne de réduction des déchets. Comme chaque année, le Réel 48 est allé dans les écoles du département pour sensibiliser les enfants à cette problématique environnementale. Corentin Bousquet de 48 FM nous propose un reportage sur une action jeudi dernier à Mende.
À l'occasion de la 6e édition de la Semaine européenne de la réduction des déchets en Lozère, le Réel 48, le réseau de l'éducation à l'environnement de Lozère, en partenariat avec le Conseil départemental et le SDEE, anime une semaine d'animation pédagogique et de sensibilisation sur le thème de la prévention et de la réduction des déchets. Pour cette édition 2015, le Réel 48 part en itinérance. Au programme, 5 journées d'animation sur 4 communes de la Lozère. On écoute Manon Pierrel, animatrice du Réel 48.
Alors là, il y a goûter zéro déchet, donc goûter de Noël zéro déchet. Il y a un atelier sur tout ce qui traite l'isolation, ce qu'on peut faire avec des déchets qu'on récupère. Et le dernier atelier, c'est sur le 7e continent, avec des notions de plastique et en quoi ça va toucher notre planète. Et on travaille sur la seconde vie des déchets.
Durant la semaine, plus de 300 élèves ont pu profiter de ces ateliers pédagogiques. On écoute Muriel Duguet, animatrice de l'atelier gaspillage alimentaire proposé par l'ALEP, puis la réaction de Lou, Mathéo et Louane.
Alors l'idée de cet atelier, c'est de mettre les enfants dans la peau d'adultes qui vont faire les courses et qui vont être amenés à faire des choix de consommation. Et quels sont les impacts de la consommation et des choix des produits qu'ils vont faire. Et pour leur santé également. Donc qu'est-ce que ça veut dire un produit local, qu'est-ce que ça veut dire un produit bio. Voilà. Et ensuite, il y a toute une partie sur le gaspillage alimentaire qu'on développe pas mal, puisque c'est une thématique qui est pas mal développée aujourd'hui.
On a appris que c'était pas bien pollué parce que on nous a fait voir une vidéo que ça a tué les oiseaux, ça a tué tous les animaux de la planète, les arbres.
Quand j'ai vu la vidéo, je me suis rendu compte que c'était nous qui polluaient. Et j'ai dit, à chaque fois que j'aurai un papier, je vais le jeter à la poubelle.
J'ai pas trop aimé quand tout à l'heure on a vu les oiseaux qui mouraient à cause du plastique. Donc maintenant, je sais qu'il faut recycler et pas laisser des cochonneries dans la nature.
Ouais, faut pas polluer la planète.
Je pense que ce soir, je vais en parler à mes parents, à mon frère et à tout le monde.
Arrêtez de polluer.
Retour dans le Gard, où le département organise, mardi 8 décembre, à la maison du département, dans le cadre de la COP21, la journée Climatitude. Geneviève Blanc, vice-présidente déléguée à l'environnement, à la prévention des risques et au plan climat, présente cette journée au micro de Pierre-Isnard Dupuis de Radio Escapade.
Nous organisons une journée phare le 8 décembre pour parler de la COP21, de son intérêt, de ses limites et surtout parler du climat, qu'est-ce qu'on fait dans le Gard, hein, parce que voilà, dans le Gard c'est important de s'en occuper également en termes de collectivité, mais aussi de faire un point d'étape, de voir les progrès qui nous restent à faire et aussi ce qu'on a fait, hein, c'est bien aussi de le dire, et puis aussi voir ce qui se passe sur le territoire. Le Gard, c'est la collectivité, mais c'est aussi le Gard territoire, avec les collectivités locales, les associations, les entreprises qui sont actifs également. Certains sont très actifs pour avancer, pour produire, vivre, se développer en faisant moins d'émissions de gaz à effet de serre.
Alors qu'est-ce qui va s'y passer au cours de cette journée ?
Alors l'après-midi, ça commence l'après-midi, ça sera réservé aux collégiens. Il y a 4 classes de collégiens qui seront là pour s'informer et débattre sur le climat et en même temps faire des ateliers avec les petits débrouillards qui organisent Science Tour, hein, avec un camion qui sera devant la maison du département. Ça, c'est l'après-midi. Ensuite, en soirée, à partir de 18h30, c'est tout public. Et là, il y aura comme grand témoin Éric De Kermel, qui est Terre Sauvage, quoi, qui est le directeur de la revue Terre Sauvage, qui a organisé le sommet des consciences pour la COP21 avec Nicolas Hulot. Donc, c'est une chance de l'avoir quand même pour le Gard ce soir-là. Et aussi, très important, il y aura une table ronde avec les initiatives, des initiatives gardoises qui nous montrent le chemin. Par exemple, le syndicat du Galaison qui a réfléchi et qui organise pas mal de choses autour de la filière bois énergie et bois construction, filière courte. Donc ça, c'est à mon avis assez exemplaire, avec tous les progrès qu'on a fait au niveau des cantines avec 1+ bio. Qui Monsieur Vera, qui sera là pour expliquer donc le lien entre l'agriculture locale et l'alimentation, également les déplacements doux, donc comment on partage l'espace de la route. Hein, il ne s'agit pas de parler de vélo, mais finalement comment on fait hein, pour circuler à vélo, à pied, dans le Gard, etc. Voilà, une série d'initiatives comme ça, et puis bien sûr un débat avec la salle. Et l'idée, c'est de sensibiliser à la question du climat, de voir où on en est, de voir ce qu'on peut faire ensemble. Pour le Gard.
Carnet de région, l'actualité en Languedoc-Roussillon.
Placée sous le double signe de la culture et de la résistance, la 7e édition de l'automne palestinien qui s'est tenue dans plusieurs communes de l'arrondissement d'Alès à l'initiative de l'association France-Palestine Solidarité Alès-Cévennes avait invité Julien Salingue, docteur en sciences politiques, à venir débattre de la question palestinienne vue par les médias. Un sujet toujours d'actualité, même si à intervalles réguliers, la Palestine sort des radars de la presse française. Mais au-delà de la seule relation des événements du Proche-Orient, la vie politique française vit aussi au rythme des soubresauts du conflit israélo-palestinien. Ainsi, la récente décision de la Cour de cassation vis-à-vis de l'appel à la campagne BDS en France, BDS pour boycott, désinvestissement, sanctions, cette campagne internationale et non violente invite notamment les consommateurs à ne pas acheter de produits israéliens. Or, la Cour de cassation a jugé illégal fin octobre et fortement punissable le simple appel à ce boycott de produits israéliens. Radio Grille Ouverte a demandé à Julien Salingue d'apporter son point de vue sur cette récente décision. Un sujet d'Yves de Fago.
Oh, il y a de plus en plus de choses qui deviennent illégales en France. Hein. Donc voilà, moi je pense que ce jugement est totalement inique et scandaleux. C'est-à-dire qu'on rend illégal le fait de dénoncer l'illégalité d'un État qui ne respecte pas le droit international. Donc finalement, c'est ceux qui défendent le droit international qu'on met hors la loi. Donc philosophiquement, c'est assez intriguant comme mécanisme. Mais au-delà de ça, je pense que c'est l'expression de rapports de force à un moment donné dans les institutions françaises qui sont très en décalage par rapport à la société française. Je veux dire, moi je suis pas fan des sondages. Je connais mon Bourdieu, etc. Mais toutes les enquêtes d'opinion montrent que la sympathie pour les Palestiniens augmente dans la société française. Et finalement, toutes ces démarches de pénalisation, criminalisation, toutes ces plaintes qui sont conduites par les officines pro-israéliennes, pour moi, sont plus le signe de leur faiblesse et de leur crispation, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de perdre la partie, que le signe de leur force. Donc dénoncer, bien évidemment, cette mise hors la loi, ça me paraît quelque chose d'indispensable, mais il ne faut pas prendre ça comme une défaite pour le mouvement de solidarité, mais plutôt finalement comme l'expression paradoxale du fait qu'il est en phase ascendante sur la question du boycott. Ça s'est vérifié l'été dernier sur la question de Tel Aviv sur Seine. Enfin, moi, c'est quelque chose que je rappelle aux gens quand il y a un peu de dépression, notamment suite à la décision de la Cour de cassation, mais c'est que ce qui s'est passé cet été autour de Tel Aviv sur Seine, c'est la démonstration qu'on ne peut plus inviter Israël en France sans que ça suscite un débat public, et y compris des pages entières, des unes de Libération, des reportages à la télévision, ce qui aurait été inimaginable il y a quelques années. Une invitation d'Israël serait passée inaperçue. Donc finalement, c'est une victoire.
Le premier tour des élections régionales, c'est ce dimanche 6 décembre. 11 listes se présentent en région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Emmanuel Negrier, politologue et chercheur au CNRS CEPEL à Montpellier, explique le mode de scrutin.
Alors on élit des conseillers régionaux. L'élection régionale elle-même, c'est une élection qui est partagée entre deux opposés, si vous voulez. Le premier opposé, c'est le scrutin proportionnel avec la dispersion des voix. En général, un scrutin proportionnel, ça se déroule à un tour. Et là, pour des raisons de consolidation des majorités, on a à la fois décidé d'organiser une élection proportionnelle à deux tours, c'est-à-dire qu'il y aura un scrutin le 6 et un scrutin le 13 décembre prochain, et de donner au second tour à la liste arrivée en tête, même si elle n'atteint pas la majorité absolue des voix, de lui donner une prime suffisante pour être majoritaire à elle seule dans la nouvelle Assemblée régionale. Donc, si vous voulez, c'est une première hésitation entre la représentativité la plus large, donc 11 listes cette année, et en même temps la nécessité de former des coalitions gouvernementales relativement cohérentes, d'où les deux tours et d'où la prime majoritaire. Et puis c'est une élection qui hésite entre deux tendances. La tendance régionale, c'est une élection régionale, donc liste régionale, 184 noms, mais en même temps formée de sections départementales, d'autant plus importante que la population de ces départements est importante. Donc ça veut dire aussi qu'on hésite entre le territoire régional comme territoire politique et le territoire départemental comme territoire d'éligibilité.
Difficile de comprendre le choix fait par le gouvernement pour le mois de décembre, proche des fêtes et en pleine COP21, en plus d'être une date inhabituelle de scrutin.
Alors on vote au mois de décembre parce qu'on avait peur, enfin le gouvernement avait peur que reporter les élections en mars 2016, aurait fait subir les foudres du Conseil constitutionnel. Et donc, il était possible qu'il y ait une annulation de cette loi électorale, c'est-à-dire de convocation des électeurs si tard, et d'autre part, pour laisser l'année 2016, l'année pré-électorale de l'élection majeure de 2017 pour les présidentielles, vierge de toute élection. Alors, c'est totalement inhabituel, hein, une élection régionale, mais même une élection locale en décembre. Ça va poser des problèmes. Ça va poser des problèmes pour un certain nombre d'électeurs qui ne seront sans doute pas au courant du fait qu'il y a des élections, qu'ils ont à voter pour ces élections, parce qu'il y a quelquefois des élections en septembre, souvent ce sont des sénatoriales. Donc on n'a pas le droit de vote pour les sénatoriales quand on est un simple citoyen. La question ne se pose pas. Là, une élection en décembre au suffrage universel direct, c'est très rare.
Un entretien proposé par Jordi Oumira-Tomezac de Radio Pays d'Hérault. Merci d'avoir écouté ce carnet de région réalisé cette semaine par Radio Escapade. La semaine prochaine, c'est RCF Hérault qui aura cette tâche. À bientôt sur les ondes.
Carnet de région.
Hérault.
Aude.
Gard.
Hérault.
Pyrénées-Orientales.
Pyrénées-Orientales. Gard.
Lozère.
Lozère.
Aude.
L'actualité en Languedoc-Roussillon.